20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, la rencontre de la musique contemporaine et du free running ce soir. Rencontre initiée par le chef Julien Masmondet qui a donné lieu à un véritable spectacle, une véritable expérience artistique à découvrir la semaine prochaine, mardi et mercredi, dans la nef du musée d'Orsay. Julien Masmondet sera à notre micro tout à l'heure pour en parler. Et puis avec Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix, nous nous évaderons cette semaine à Salzbourg où se tient en ce moment la Mozart Woche. Avant cela, quelques autres nouvelles du monde musical. Le quatuor ébène se renouvelle. Raphaël Merlin, son violoncelliste, désormais directeur musical de l'orchestre de chambre de Genève et dont l'avenir se dessine de plus en plus vers la direction, quitte donc définitivement le quatuor et c'est le violoncelliste japonais Yuya Okamoto qui reprend sa place. Yuya Okamoto, formé à Tokyo et qui a reçu notamment le deuxième prix du concours Reine Elisabeth en 2017. Philippe Gau vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Philippe Hervègue fera ses débuts demain soir à la Philharmonie de Paris. Il dirigera ainsi son orchestre des Champs-Élysées pour la première fois dans cette grande salle parisienne, ainsi que son collégium vocal de Gand dans un programme Schubert-Brahms associant la symphonie inachevée et le requiem allemand avec en soliste la soprano Regula Mühlemann et le baryton Florian Boesch. Philippe Hervègue poursuivra ensuite sa grande tournée européenne. Quant à l'orchestre des Champs-Élysées, il investira la fosse de l'Opéra Comique au mois de mars sous la direction de Louis Langrée pour une production très attendue, un diptyque Stravinsky-Ravel avec Pulcinella et l'heure espagnole dans une mise en scène de Guillaume Gallienne. Très touché, bouleversé par l'attaque du 7 octobre en Israël et très engagé dans un combat contre la montée de l'antisémitisme, le pianiste Igor Levit a choisi de dédier un album à cette cause, album publié par Sony, au profit de deux organisations allemandes luttant justement contre l'antisémitisme. Réaliser cet enregistrement était une très très puissante nécessité intérieure. C'est ma réaction en tant que personne, en tant que musicien, en tant que juif, à ce que j'ai ressenti ces dernières semaines et ces derniers mois, confie-t-il. Alors son choix s'est porté sur Mendelssohn et ses romans sans parole. Un album qui se conclut avec un prélude du compositeur romantique français Charles-Valentin Alcan, qui représente à ses yeux, aux yeux d'Igor Levit, une forme de romance sans parole. Ces pièces chargées de tant de mélancolie, mais aussi de réconfort.
Thank you.
L'une des romances sans parole de Félix Mendelssohn, figurant au programme de cet album d'Igor Levit, qui vient de paraître chez Sony, et dont les bénéfices seront reversés à des organisations allemandes luttant contre l'antisémitisme.
L'Or Maison sur Radio Classique.
Il développe avec son ensemble les Apaches, des concerts, des spectacles étonnants, nous fait vivre de véritables expériences sonores et artistiques, mélangeant les genres, faisant dialoguer des artistes issus d'univers qu'on ne penserait pas forcément rapprochés. Julien Masmondet présentera les 6 et 7 février au Musée d'Orsay son formidable spectacle Street Art, créé l'année dernière au Théâtre de l'Athénée, et il est avec nous ce soir pour en parler. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors c'est vrai qu'il y avait un public assez bigarré en mai dernier au Théâtre de l'Athénée, et pour cause étaient venus non seulement des amateurs de free running et des amateurs de musique contemporaine pour ce spectacle mêlant donc ces deux univers. Le free running, c'est cette incroyable discipline acrobatique qui consiste à courir, à faire des acrobaties dans le milieu urbain et notamment sur les toits. C'est un art qui vous fascinait, Julien Masmondet?
Oui, ça m'a passionné quand j'ai vu les premières vidéos de free running. J'ai trouvé ça à la fois très spectaculaire mais aussi très poétique, et je voyais à travers cette discipline un peu l'expression aussi du rythme et d'une pulsation qu'on peut retrouver dans la musique d'aujourd'hui. Et donc j'ai rencontré Simon Noguera, qui est l'un des freerunners les plus remarquables d'aujourd'hui, qui voilà était emballé par le projet, et on a commencé à construire avec une formidable équipe d'artistes très différents venus d'horizons très variés ce spectacle Street Art.
Est-ce que vous avez découvert justement plein de choses qui vous rapprochent entre ce monde du freerunning et la musique contemporaine?
Oui, autour du mouvement, sans aucun doute, il y a une réflexion autour du mouvement et puis de la précision du geste quelque part. C'est vrai que les freerunners prennent des risques vraiment très important, et tout est mesuré au millimètre. Et en comparant un peu nos disciplines, il y a cette notion d'entraînement, de répétition, et puis de grande précision pour justement après se libérer de la technique pour aller vers des sphères absolument extraordinaires, comme la musique nous permet d'aller, et puis le freerunning aussi.
Alors le free running est lié à un environnement urbain. Vous avez donc pensé, Julien Masmondet, à des œuvres contemporaines, des œuvres modernes qui ont un côté urbain dans leur sonorité, dans leur rythme, ouais. dans leur couleur.
Oui, je suis persuadé que la musique d'aujourd'hui, traduit en fait notre époque, mais notre environnement sonore de tout temps finalement. Les compositeurs se sont inspirés de la nature, sont inspirés de toute l'histoire qui était autour d'eux. Et je pense que la musique d'aujourd'hui, il y a beaucoup de compositeurs qui ont pris cette pulsation qu'on peut retrouver dans la ville, ces différents rythmes qu'on retrouve. Donc je suis parti sur la construction du programme autour du compositeur américain Steve Reich, ce grand compositeur minimaliste, et en le faisant dialoguer sa musique avec trois compositeurs d'aujourd'hui, que sont Régis Campo, Pascal Zavaro et Fabien Cally, et puis un quatrième compositeur, un sound artist, à qui j'ai commandé des compositions électroacoustiques. Et en effet, tous prennent chacun à leur façon le pouls de la ville. Ils ont tous cette écriture basée sur le rythme, sur le mouvement. Et donc, il y a toute une diversité d'écritures qui fait la richesse de ce programme.
Un extrait de ce spectacle Street Art créé l'année dernière au théâtre de l'Athénée. Ici, une musique de Fabien Cally intitulée Niviana's Devil Drop par l'ensemble Les Apaches et son chef Julien Masmandé qui est notre invité ce soir sur Radio Classique. Alors ce spectacle, vous l'avez repensé pour un autre lieu. Et quel lieu? Le musée d'Orsay, la nef du musée d'Orsay. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur cette nouvelle version de Street Art?
Oui, alors déjà, on est très attaché au musée d'Orsay. Depuis la création des Apaches, on avait fait un premier spectacle en plein confinement qui avait été capté. Et voilà, moi, c'est un lieu que je trouve absolument magique et exceptionnel. C'est la période aussi historique des Apaches, début du XXe siècle. Et donc, il y a une formidable équipe au musée d'Orsay de programmation avec qui on peut imaginer donc les projets les plus fous. Et l'ADN de ce spectacle, c'était aussi d'explorer des lieux très différents. Donc qu'on puisse aussi bien aller dans une salle de théâtre comme on l'a créé à l'Athénée, mais aussi aller dans des lieux comme la nef du musée d'Orsay. Alors c'est cette nef immense, cet ancien hall de gare nous offre des perspectives fantastiques. On a vraiment exploré toute la dimension du lieu dans la préparation.
Y compris le toit du musée d'Orsay, parce
Absolument.
Qu'on se souvient à l'Athénée, ce qui était très
Absolument.
Impressionnant, c'est qu'on voyait ces freerunners sur les toits du théâtre de l'Athénée, puis ensuite apparaître comme par magie sur scène. Vous avez filmé
oui.
des séquences.
Exactement. Alors on travaille avec le metteur en scène et réalisateur Gordon, exceptionnel artiste. On a mêlé la vidéo, le freerun et puis la musique d'aujourd'hui dans ce spectacle. Et donc la vidéo apporte cette dimension aérienne à travers justement des prises qui ont été faites avec des GoPro, vous savez, ces caméras qu'on met dans la bouche des freerunners. Et on a le spectateur a l'impression de se retrouver à courir sur les toits à la place des freerunners et à parcourir tout Paris, dont les toits du musée d'Orsay, pour arriver après jusque la nef. Donc en fait, on invite le public à un véritable parcours, vraiment physique, mais aussi un parcours sonore.
Et faut pas avoir le vertige, hein, parce qu'on s'y croit hein, sur les toits.
Oui, et en fait, ce mouvement, on voulait que ce mouvement contamine tout le monde. Ça contamine l'orchestre, puisque l'orchestre aussi bouge. À travers ça, ces expériences, c'est l'idée, c'est un peu de repenser les dispositions orchestrales. Voilà, c'est ça qu'on trouve intéressant aussi avec les musiciens et puis les compositeurs associés de l'ensemble, c'est essayer de faire bouger les codes, essayer de montrer que la musique d'aujourd'hui ou la musique classique, c'est pas figé. C'est toujours
et
en
peut
mouvement.
Donner lieu à de véritables spectacles et vous nous y habituez. Alors, on va citer ces artistes, freerunner, Simone Oguera et Joanne Tonnoir, un danseur et acrobate également Andrea Katoji, qui feront également des performances en direct, en plus de ces séquences filmées.
Absolument, ouais. On voulait qu'il y ait plusieurs dimensions. Simone Oguera évolue dans les airs, sur les toits. Andrea Katoji est plus danseur acrobate, donc il est plus au sol. Et puis, on avait besoin d'une ligne médiane entre ces deux mondes, entre le monde souterrain et le monde aérien. Donc, avec Johan Tonnoir, qui va explorer aussi ces trois dimensions avec les deux autres freerunners. Et puis, voilà. Et puis, les musiciens participe aussi à ça et ça demande beaucoup de virtuosité de leur part. Et voilà, je suis très heureux de travailler avec les musiciens des Apaches qui sont curieux et qui ont aussi cette philosophie du freerunning qui est s'adapter dans des lieux différents, s'adapter avec des esthétiques différentes. Et je pense que voilà, c'est un bon message aujourd'hui pour monter des spectacles.
Et donc ce spectacle, un spectacle d'une grande poésie, sera donné les mardis 6 et mercredi 7 février, deux fois, puisque ce sont des versions qui durent une heure, à 19h et 21h dans la nef du musée d'Orsay. Des moments qui s'annoncent particulièrement intenses et riches en émotions. Et ensuite, quels seront les autres projets que vous allez développer? Julien Masmandé, avec les Apaches, il y aura d'autres expériences, notamment en réalité virtuelle.
Oui, en effet, on a travaillé sur un projet qui s'appelle « Ça vous dérange ?» avec un point d'interrogation, où après les bruits de la ville, on s'est intéressé aux bruits de la nature. À tous ces bruits, vous savez, le chant du coq, ou le son des cloches, ou le coassement des grenouilles qui ont été l'objet de plaintes ces dernières années.
Oui, le chant du coq, ouais. Il y a eu un opéra
on a même
que vous avez dirigé
dessus,
sur cette
coq,
histoire.
Le coq Maurice, et bien on a continué à faire un projet sur tous ces sons protégés par la loi, une loi maintenant qui est passée au Parlement, la loi pour la protection patrimoine sensoriel des campagnes françaises.
Donc, voilà, donc vous passez de l'univers urbain à la campagne.
Exactement. Mais donc voilà, avec les Apaches, on a ce souhait de aussi de traiter de questions contemporaines hein, qui agitent notre société. Et donc là, c'est un dispositif qu'on a imaginé pour que n'importe qui n'ait pas les clés ou qui n'a pas l'habitude d'aller à un concert de musique classique puisse vivre une expérience en réalité virtuelle, donc avec un casque. Donc c'est on a fait un travail avec Gordon et puis la société Lucid Realities pour, une fois que le spectateur auditeur met le casque, il puisse se retrouver au sein de l'orchestre, à entendre des compositions inspirées de ces bruits de la nature et à se retrouver dans des espaces naturels, donc à la fois dans l'orchestre et puis tout d'un coup dans un champ ou dans un marais où on entend des grenouilles.
Donc une expérience à vivre du 1er au 10 juin, ce sera à l'Opéra de Limoges. Vous enseignez, Julien Masmondé, vous enseignez la direction d'orchestre au sein de l'École normale de musique. Est-ce que vous percevez auprès de vos élèves, auprès de ces apprentis chefs d'orchestre, une curiosité, une envie comme vous de bousculer un peu les codes? Ou est-ce que j'imagine que vous les titillez
alors,
un peu pour ça aussi?
Je les titille et j'ai même fait un cours exprès, un module qui s'appelle le chef créatif, où je les encourage à imaginer des projets. Et à les faire rencontrer beaucoup de personnalités de leur environnement, de l'écosystème culturel, pour réaliser leurs rêves. Donc chaque année, j'ai une dizaine d'étudiants venus du monde entier, qui non seulement travaillent répertoire symphonique et lyrique, mais aussi commencent à construire leur projet qui vont mener en parallèle d'une carrière aussi plus classique, tout en passant des concours internationaux. Mais je pense que c'est une dimension importante. Et puis l'École normale a c'est une école aussi atypique. Hein. On forme des musiciens aussi extrêmement complets. Donc moi, j'essaie, dans le cadre de cette classe, de leur ouvrir de nombreuses perspectives en leur donnant le plus de clés possible.
Et vous sentez que certains sont plus audacieux ou ont envie, comme vous, d'expérimenter des nouvelles choses?
De plus en plus. Déjà, je les invite et ils viennent voir les spectacles. Donc, ça leur donne
des idées,
beaucoup d'idées. Ça fait 3 ans que j'enseigne dans cette classe et j'ai déjà, enfin voilà, une étudiante qui a monté son ensemble et qui a fait son premier concert inaugural. Voilà, c'est une idée qu'elle avait construite dans le cadre de la classe. Donc, ça commence à porter ses fruits et je pense qu'on va avoir plein de chefs créatifs dans les prochaines années.
Alors, il vous arrive aussi, Julien Masson, demandé de diriger des concerts plus traditionnels avec d'autres orchestres, notamment. Ces prochains jours, vous serez à Nantes avec le Symphonia Varsovia, dès demain d'ailleurs.
Absolument. Oui, je suis très heureux de diriger dans le cadre de ce très beau festival.
La folle journée.
La folle journée, absolument. Et donc, 2 concerts dans la même journée. Un autour de la musique française avec la symphonie sur un champ montagnard français de Dindic, extraordinaire. C'est une œuvre qu'on ne joue pas assez, avec la symphonie en une de Bizet. Et puis un deuxième concert, alors très Apache dans l'esprit, avec une œuvre d'un compositeur contemporain suédois qui s'appelle Andrés Hilborg, qui écrit les Contes du Pan, avec une saxophoniste Valentine Michaud qui jouera avec un masque et avec toute une scénographie.
Ah oui, donc c'est pas complètement traditionnel.
Donc non, il est quand même. Et puis une œuvre de Rautavaara, qui est un concerto pour oiseaux.
Ah, c'est magnifique.
Cantus Arcticus.
Cantus Arcticus.
Absolument extraordinaire.
Avec des enregistrements de chants d'oiseaux.
Exactement. Ouais. Donc c'est pas très loin des projets que je développe avec les Apaches. Donc je suis très content aujourd'hui que tout se fusionne en fait entre ma carrière de chef invité avec des orchestres prestigieux comme le Symphonia Varsovia avec lesquels on peut aussi explorer des programmes atypiques. Je pense que c'est important aujourd'hui pour aller toucher des publics très différents.
Je pense que le public en a envie et se régalera. J'invite le public à venir nombreux au Musée d'Orsay 6 et 7 février pour ce spectacle Street Heart. On va se quitter, Julien Masmondé, avec votre plus récent enregistrement à la tête de l'ensemble Les Apaches, la tragédie de Salomé, qui avait fait également l'objet d'un spectacle original associant la musique de Schmitt à des créations visuelles. Vous avez d'autres projets discographiques? L'œuvre de Fabien Cali que l'on écoutait fera l'objet d'un enregistrement?
Absolument, ça va être notre premier single et on va même sortir un vinyle. Et puis après, on a, avec B Records, avec qui on a enregistré la tragédie de Salomé, ce label extrêmement dynamique qui fait des lives, on a deux disques à venir, notamment Une histoire du soldat avec Didier Sandre. Et puis après, un disque pour l'anniversaire de Ravel en 25.
Oui, Ravel, donc, fondateur des Apaches.
Absolument. Donc voilà, on va lui rendre hommage, mais avec une façon aussi tout à fait singulière.
Merci beaucoup, Julien
Masmondé. Merci beaucoup, Laure.
Un extrait de la tragédie de Salomé de Florent Schmitt par Julien Masmondé et son ensemble Les Apaches. Julien Masmondé et ses Apaches qui seront donc mardi et mercredi à 19h et 21h dans la nef du musée d'Orsay pour ce spectacle Street Arts.
Le coup de cœur de la Croix avec Emmanuel Giuliani.
Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Laure.
Vous nous emmenez à Salzbourg cette semaine fêter Mozart.
Exactement, fêter l'enfant du pays parce que quelques jours après le 27 janvier, qui est donc le jour anniversaire de la naissance de Mozart, je vous propose ce petit voyage jusqu'à sa ville natale, ce bijou baroque au cœur des montagnes d'Autriche. Alors Salzbourg, elle est aussi séduisante l'hiver sous la neige que sous le soleil d'été, où il peut pleuvoir d'ailleurs, même assez souvent. C'est une perle patrimoniale qui offre à l'enfant du pays, donc sa Mozartwoche, sa semaine Mozart, à la fin du mois de janvier, dont la direction artistique est assurée depuis plusieurs années par le ténor, mais aussi metteur en scène et écrivain Rolando Villason. Sa dévotion passionnée à l'auteur de Don Giovanni n'est plus à démontrer et il l'illustre donc à la Mozartwoche à travers une programmation 100% consacré au compositeur, qui allie des concerts symphoniques, des soirées lyriques, de la musique de chambre, mais aussi des spectacles pour grands et pour petits, des films, des conférences et j'en passe. Alors la plupart de ces concerts se déroulent dans la ravissante salle du Mozarteum, qui est tout près de la célèbre université musicale qui porte le même nom, et à peine plus loin de l'une des deux maisons de Mozart que l'on voit à Salzbourg, celle où il a vécu après sa maison natale, qui est vraiment un des hauts lieux touristiques. Mais cette deuxième maison, elle est tout à fait passionnante, très jolie également, et transformée en un musée qui mérite amplement la visite pour mieux connaître le compositeur et le contexte de son époque. Mais des rendez-vous sont aussi proposés dans la résidence de Salzbourg et dans les salles du Palais des Festivals, celui qui est tellement investi durant l'été, et de ce Palais des Festivals qui est de l'autre côté de la rivière. Donc entre ces divers lieux, ces divers lieux de concert, chaque rue, chaque place, chaque église, et avouons-le, surtout l'hiver, chaque pâtisserie et chocolaterie nous invite à de délicieuses et indispensables haltes.
Ça ne m'étonne pas de vous, Emmanuel. Alors, vous vouliez aussi attirer notre attention sur quelques concerts.
Oui, bien sûr, parce que c'est quand même le cœur du sujet.
Mais ça s'associe bien, hein, chocolaterie et concerts.
Absolument. Et sans lister l'ensemble de ces rendez-vous musicaux, voici quelques moments particulièrement prometteurs d'ici la fin du festival, le 4 février. Alors, ce soir notamment, ce soir premier, le pianiste Kirill Gerstein joue, mais dirige aussi, l'orchestre de chambre d'Europe dans un programme qui met en regard des œuvres de Mozart, bien sûr, et de Salieri, dont la légende, mais la légende seulement, firent des ennemis. Leur relation, certes parfois de rivalité, était aussi une relation d'estime mutuelle, et c'est d'ailleurs ce Mozart-Salieri le fil rouge de cette édition 2024 de la Semaine Mozart. Et puis ce concert se terminera avec l'un des héritiers, Beethoven, qui conclut ce concert, donc sous la direction toujours de Kirill Gerstein, qui interprétera son deuxième concerto pour piano, qui est encore tout pétri de l'esprit mozartien. À noter aussi, donc, d'ici la fin du festival, la Clémence de Titus, demain 2 février, sous la direction de Jordi Savall, avec Magdalena Kogena, notamment dans le rôle de Sesto, et ce même jour, un concert de la Camerata Salzbourg, avec entre autres le mandoliniste Avi Avital. Et puis, les derniers jours de la manifestation seront tout aussi alléchants, avec là encore une rencontre Mozart-Salieri grâce à l'orchestre de chambre de Bâle, sous la direction de Giovanni Antonini, et avec la clarinettiste Sabine Meyer en soliste, bien sûr, ou encore l'Orchestre Philharmonique de Vienne, emmené par le chef Andrés Orozco Estrada. Donc, il n'est pas beaucoup besoin de prétexte pour rêver de Salzbourg et pour écouter du Mozart, et la Mozartwoche qui lance en quelque sorte les festivités musicales de la ville, avant le festival de Pâques, celui de Pentecôte et celui d'été, donc ravive la flamme, si tant est qu'elle ait besoin de l'être. Et j'évoquais Magdalena Kogena et la Clémence de Titus, ben c'est elle qu'on entend dans le si bel air de Sesto. Parto, parto.
Oh.
Parto, parto, matut ben mio, un air de la Clémence de Titus de Mozart, chanté par Magdalena Kojena, avec ici l'Orchestre de Chambre d'Écosse et Charles Maqueras. Merci beaucoup Emmanuel.
Merci Laure.
Pour ce voyage à Salzbourg et à la semaine prochaine, merci à Baptiste Dupin pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie du pianiste Adam Laloum, qui nous parlera de Schubert. Adam Laloum qui vient d'enregistrer l'avant-dernière sonate de Schubert. Mais tout de suite, votre soirée se prolonge en musique sur Radio Classique avec Francis Drezel.